E-Teachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Et Seb.
Salut à tous. On est super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de E-Teachers. On en est à la saison 5. Salut Seb et salut Jeff. J'espère que ça va.
Salut à tous. Quel plaisir d'être là.
Ouais, on est
plaisir
content.
De reprendre.
On est content d'être de retour. Voilà, comme j'étais en train de me dire avant de lancer l'épisode, voilà, c'est la saison 5. Et pour un petit projet comme nous, quand Jeff, on a parlé de ça entre deux plateaux de cantine il y a quelques années, un midi, c'est de dire, c'est sympa de faire ça. Je suis content que 5 ans après, on arrive quand même à tenir le rythme, à continuer à proposer nos émissions comme on peut. Voilà, je trouve ça chouette.
Voilà, et qui sont, j'ai envie de dire, de plus en plus écoutés. On est assez contents là-dessus.
Hein? Exactement. Et du coup, on vous remercie tous. Alors bon, que ce soit en direct, en podcast ou sur tous les supports habituels, on est content vraiment de pouvoir continuer à vous proposer nos réflexions, nos idées, nos petits coups de gueule, hein, tout ceci étant dans la bonne humeur. Voilà.
Tout à fait. On reste comme ça. En tout cas, on reste la même équipe, même si on est 3 soirs... On a toujours la même équipe, hein, nous deux et les deux Seb. Hein, donc voilà. Des rubriques qui vont rester à peu près dans le même esprit. On a rajouté une petite nouvelle rubrique, vous verrez. On en parlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, plein de choses, hein, des outils comme d'hab, un petit retour sur Ludovia que je vous ferai, des articles et une petite surprise pour une nouvelle rubrique. On va dire ça comme ça.
Super.
L'attaque.
On va commencer avec notre première rubrique qui est
les outils.
Ah,
on fait du jingle maintenant.
À la voix, parce que comme on a pas beaucoup de
à la bouche pour cause de budget.
Je vais commencer.
Ouais, bon, allez, si tu veux, dans l'ordre, pas de souci.
Alors, le temps que je retrouve mon lien, voilà. Je vais vous parler d'un outil en fait, que j'ai découvert complètement au hasard il y a quelques mois, qui s'appelle Classroom Screen. Donc Classroom Screen, un écran vraiment de classe, c'est-à-dire qu'en fait le concept de ce site, c'est de retrouver sur une page web tout plein de petits outils qu'on utilise assez souvent en tant que prof et qui sont assez faciles à utiliser et à avoir toujours à portée de main. L'interface est très simple, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une page vierge sur laquelle nous allons pouvoir agir et faire apparaître un certain nombre de petits outils. Petits outils, ça serait mieux d'ailleurs. Première chose intéressante, vous pouvez changer la langue de là-bas des outils. Bon, pour moi, c'est intéressant en tant que prof de langue, puisque bien évidemment, je vais pouvoir mettre tous mes outils en anglais. Et vous avez plusieurs choses. Alors, la possibilité de changer le fond d'écran. Alors, si vous voulez, le fond d'écran, c'est un détail esthétique, mais qui a son importance, parce que je trouve toujours sympa d'avoir un environnement de travail agréable. Alors, on peut pas choisir ce qu'on veut, et je suis en train de vous dire une bêtise, parce que je vois que j'ai un bouton d'upload qui vient d'apparaître, qui n'y était pas il y a quelques temps. Donc, a priori, on peut, en direct, quand je découvre, c'est super. Oui, c'est bien ça, donc on peut. En tout cas, on peut changer le fond d'écran, c'est ça qui est intéressant, quoi qu'il arrive. Là, je vais choisir un joli fond d'écran avec... Westminster, c'est magnifique. Et on arrive aux outils intéressants. Alors, le premier outil intéressant, c'est que vous cliquez ici, vous faites apparaître un sélecteur de noms. Donc, il suffit de copier-coller votre liste d'élèves dans la classe, hein, Paul, Antoine, John et Joe. Très bien, bien sûr, vous l'avez copié-collé. Et choose, vous cliquez et de manière aléatoire, ça choisit quelqu'un. Donc, c'est moins sympa qu'une roue qui tourne ou toutes les animations qui existent dans les sélections au hasard. Mais vous avez cet outil-là. Pour le faire disparaître, il suffit de réappuyer sur le même outil. Une petite calculatrice. Moi, en tant que prof de langue, je vous avoue que je m'en sers peu, mais je sais que certains collègues à qui j'ai montré l'outil ont trouvé ça génial. Un générateur de QR code en direct. C'est-à-dire que là, en direct, vous tapez l'adresse du site que vous voulez donner. Allez, on va aller envoyer vers YouTube. Hop, ça change le QR code et c'est parti. Vos élèves peuvent venir scanner directement au tableau votre QR code. Si vous travaillez en tablette, ça a vraiment un intérêt à la volée certain. Un générateur de dessin. Alors moi, je m'en sers pas trop, mais je pense que si on a un tableau numérique, et ben voilà, hein, c'est facile. Si on a n'importe quel TBI, rapidement, vous pouvez inscrire comme un petit carnet de notes. De dessins avec des formes géométriques plutôt, alors j'ai dû inverser hein, on traçait vraiment des formes déterminées, donc ça plutôt pour les profs de sciences encore, du texte très rapidement, pourquoi pas, pour quelques traces écrites, des notes. Et puis ce truc qui me plaît beaucoup moi, c'est en fait tout plein de symboles pour ce que j'appelais des modalités de travail. C'est-à-dire que moi, quand je fais des travaux de groupe ou de travail individuel, c'est parfois utile de pouvoir dire que c'est un travail où on va avoir besoin ou c'est un travail qui nécessite tout simplement le silence, ou au contraire qui va nécessiter la coopération, qui va nécessiter le travail de groupe, ou qui va nécessiter d'écouter, ou juste de chuchoter. Bon, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est très utile dans ce que j'utilise. Voilà, des choses avec des feux rouges, des feux verts, ça peut avoir son utilisation, son intérêt, pardon. Et enfin, surtout, moi j'utilise beaucoup aussi les timers pour donner des temps à mes activités quand ils sont en autonomie. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer à quoi sert un timer. On a aussi une horloge, ça c'est moins intéressant, mais pourquoi pas. En gros, si vous voulez, ce qui m'a plu dans cet outil, c'est qu'on a sur ce même espace, on a un petit peu tous les trucs de prof dont on peut se servir rapidement et à portée de main. Moi, j'arrive en classe, je l'ouvre, je le lance, et voilà, j'ai tout en quelques secondes, et c'est vraiment, vraiment très très utile. Donc voilà, Classroom Screens, c'est gratos, et puis
c'est en ligne,
c'est ça. C'est tout en ligne. Par contre, c'est obligatoirement, on a besoin d'être connecté à Internet, c'est clair.
Tu l'as essayé avec un TBI justement?
Ouais, j'ai essayé avec un TBI. Écoute, c'est plutôt le fluide. Hein. Moi, en plus, j'ai un TBI portable. Hein. J'ai une Necker là, de chez iBeam. Donc, c'est pas non plus les trucs les plus précis de la Terre. Et en fait, ça marche très très bien, quoi. Ça marche plutôt très bien. Voilà.
Faudra que je teste.
Voilà. Bon, c'est un coup de main à prendre. Mais je sais que moi, j'ai toujours besoin, quasi à chaque fois de mes cours, hein, d'un timer, voilà, de petits symboles, et puis de choisir des noms, des choses comme ça. On a tout ici. C'est assez pratique. Voilà, voilà, Classroom Screens.
Ok, avec un C.
Avec un C. Oui,
parce que le K arrive.
Et ben voilà.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais ça.
Ah, c'est beau cette transition. Donc, alors l'année dernière, j'utilisais Classe Dojo. Cette année, c'est Classroom. Mais à quoi ça sert? Dites-moi un peu. Alors, Classroom, ça se veut être le petit ENT de poche. Bien, je pense que c'est vraiment bien pensé pour le primaire, on va dire. Donc, la présentation, ils vous disent la communication parent-professeur réinventée. Oui. Bon, après, c'est des grands mots pour des petites choses, mais qui sont super pratiques. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça met en place un espace privé entre vous et les parents. Qu'est-ce que ça se permet, cet espace? Bon, ben, les trucs classiques, hein, afficher des notifs, que ce soit des notifications images, des notifications texte. Moi, je m'en sers pour les devoirs, par exemple. Hein, pour l'instant, je découvre un peu l'application pour l'instant. Il y a des trucs que je connaissais déjà, il y en a d'autres qui sont pas mal. Donc, après, bien sûr, les parents peuvent nous contacter directement. On peut les contacter directement aussi. On sait... Un par un, on peut savoir qui a vu quoi dans les notifications que l'on a fait. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On peut même leur demander une signature. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure la signature est effective, mais on peut demander cette option-là quand on fait une notification. On a des tas d'autres choses du style. On peut faire des publications. On peut programmer des publications. On peut mettre des documents en ligne. On peut également, excusez-moi, j'avais pris des notes, mais forcément je ne les ai pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des vidéos qu'on peut partager, etc. On peut bien sûr contacter directement un parent et lui envoyer des choses. C'est pas mal. Bon, ça fait son petit travail. Alors, moi qui avais utilisé Classe Dojo, là où je suis un petit, ouais, je vais être un peu méchant, c'est moins beau. Forcément, Classe Dojo, pour ceux qui ont
ouais. Il y a le côté ludique, Classe Dojo.
Ouais. Ouais, mais c'était très graphique. Tu avais les petits personnages, les gamins pouvaient les customiser, les personnaliser, etc. C'était vraiment sympa. Puis en plus, Classe Dojo partait avec l'idée de, attention, on va faire, on va, entre guillemets, pouvoir mettre des points aux élèves selon soit le comportement, soit l'activité. Enfin, on pouvait en décider de tas de choses. Là, ce n'est pas du tout le propos. Là, on a vraiment une application à pouvoir faire des, par exemple, ce que je fais, quoi, mettre les devoirs, communiquer avec les parents et basta.
Et tout ce que l'aspect multimédia, là, partage de photos.
C'est ce que je disais, tu peux mettre des photos, des vidéos. Ça, j'ai pas encore essayé. Là, je l'ai mis en place il y a une semaine.
Oui, c'est tout récent. Oui.
Voilà, c'est tout récent. Le truc intéressant, par contre, on ne crée pas de compte pour les élèves. La procédure qu'ils ont choisie, c'est pas l'enseignant qui crée un compte pour les élèves, non, l'enseignant crée une classe. Cette classe possède un code et ce code, on va le fournir aux parents de pouvoir se connecter avec ça. Ça fait d'accord. Un petit peu bizarre. Je réfléchis sur le truc, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, j'arrive pas à me décider. C'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Parfait pour les professeurs, oui, c'est vrai qu'on crée rapidement une classe. Bon, même si moi, j'étais un peu moins réceptif quand ils m'ont demandé mon numéro de téléphone.
Bon, ah.
C'est moi qui bloque sur certains trucs, ça je sais, mais bon, voilà. Ça a toujours le côté pratique que les parents, on n'a pas besoin de leur donner un mail ou quoi que ce soit d'autre, ils l'ont sur le téléphone. Et pour l'avoir essayé l'année dernière avec Classe Dojo, c'est vrai qu'ils ont plus tendance à ne pas hésiter à me contacter par là. Alors que si c'est un mail, je ne sais pas pourquoi, ça fait toujours une étape en plus.
Voilà. Et les parents ont adhéré ou non?
Alors écoute, pour actuellement, j'en suis à 12 sur une. Ouais, ça va. J'ai la moitié de la classe, quoi, 50%.
D'accord. Une semaine, c'est bien.
Voilà. En une semaine, sachant que je fais ma réunion dans peu de temps, que je vais leur répéter, leur expliquer ce que ça donne. Franchement, je trouve ça pas mal. Là, par exemple, ce qui est affiché, c'est qu'on peut me contacter pour m'annoncer un retard, une absence, quelque chose de particulier. Ça, j'ai bien aimé.
D'accord, oui, c'est pas mal. Hein.
Voilà, ça facilite la chose, donc j'espère avoir des retours par rapport à ça. Est-ce qu'il y a sur les échos? Voilà, après, c'est des trucs classiques, c'est entre le. Voilà, c'est un petit ENT, donc vous pouvez avoir des tas de choses. Par rapport à classe. Oui?
C'est un service payant ou gratuit, tu n'as pas dit?
Ah, ben voilà, ça je le garde.
Ah, pardon.
Bon, mais je garde pour la fin, mais je vais y répondre tout de suite. En fait, pour l'instant, c'est gratuit de mon côté et du côté des parents. Mais pour avoir vu leur compte Twitter, ils envisagent quand même de le faire passer payant.
Oui.
Parents, via un service de, d'abonnement mensuel.
D'accord, ok.
Mais enfin bon, j'ai déjà prévenu les parents. Par contre, ce qu'ils envisagent de faire, c'est de faire passer l'application en payant et de garder, l'accès web gratuit. Donc,
D'accord, c'est juste l'application et c'est les parents qui paieraient. Bien, c'est bizarre comme business.
C'est les parents qui paieraient. Enfin bon, ils sont en train un peu de réfléchir à leur business là. C'est une française qui s'est lancée là-dedans il y a peu. Donc tu sens qu'ils se cherchent un peu. Et d'ailleurs, je dirais, ça se sent quand même qu'ils se cherchent parce que l'application n'est pas encore super stable comme pouvait l'être Classe Dojo, par exemple.
Oui, bien sûr.
Une fois que je la lance, quand je reviens dessus, elle plante et il faut la relancer. Bon, c'est pas une catastrophe, hein. ça plante pas.
D'accord.
Et tu n'as pas de parents qui sont complètement réticents sur ces outils?
Alors, ça se pose, si tu veux, la question ne se pose pas avec moi, c'est parce que pour l'instant, je me place dans l'expérimentation, etc. Et j'ai déjà prévenu, je continuerai à faire des communications papier, etc. Et ceux qui sont super réticents, parce qu'on va finalement, on en a toujours, ils n'auront pas ce que je ne partagerai que là-dessus, c'est-à-dire ben, les productions communes, c'est ce genre de choses, je vais m'amuser à les coller dans un cahier de liaison quelconque. Donc là, ben, les parents réticents, ils auront moins, ils auront l'essentiel, mais moins. Mais j'ai pas eu encore ma réunion. Donc,
Oui, et puis il n'y a aucune obligation des parents, quoi. Non, moi je sais que
Exactement.
en utilisant la classe dojo, je leur dis bien qu'il n'y a aucune obligation, quoi. Très bien.
En tout cas, ouais, c'est sympa de voir que ça existe. Moi, j'utilisais un peu classe dojo, j'ai eu des soucis avec des parents, des histoires toujours de données, de choses comme ça, là, pas forcément justifiées. Donc,
voilà. Si tu veux, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est que société française, donc ils ont les données sont stockées en Europe, je crois, mais bon, avec les caractéristiques de sécurité demandées.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr. Oui, t'as raison en plus là-dessus.
C'est chouette. Ouf.
Voilà, ben, je vous ferai un petit retour là-dessus si.
Bah oui, ce sera ton fil rouge de l'année, peut-être, non?
Moi, j'en ai d'autres.
Ok, merci. Alors. Eh bien, je vais continuer. Avec, je viens de changer un petit peu les notes de l'émission de Jeff, oui, t'inquiète pas.
Change direct les notes de l'émission, il est trop fort.
Parce que ça me plaisait pas ce que j'avais prévu. Et voilà, je voulais vous parler, en fait, bon, c'est quelque chose qui va plus être réservé aux profs de langue et encore, voilà, de quelque chose qui, en tant que prof de langue, pourrait paraître sacrilège, blasphématoire. Je vais vous parler d'un traducteur. Quand on est prof de langue, c'est quand même le gros problème aujourd'hui de travailler avec les traducteurs, pour la simple et bonne raison que ce qui revient de plus en plus dans la bouche des enfants, et c'est pas complètement faux quand ils sont pas passionnés par les langues, c'est pourquoi j'ai des cours de langue, sachant qu'aujourd'hui je peux taper, copier-coller du texte et le faire traduire, et je peux même le faire à la voix, puisqu'il suffit de parler dans n'importe quelle application de traduction live, ça non seulement il vous reconnaît, mais il traduit en direct dans l'autre langue. C'est quand même assez bluffant, hein, ce genre d'application, ça existe.
Ouais, ça s'est drôlement amélioré en plus. Hein.
Et ça s'est drôlement amélioré. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester dans un pays où je pouvais vraiment rien utiliser de mes connaissances européennes, puisque c'était la Chine. Et c'est hallucinant. Il y a toujours plein d'erreurs, il y a plein de choses, mais pour les besoins basiques, ça fonctionne très très bien. Donc en fait, c'est vrai que c'est un vrai problème, puisque comment faire ? Vous demandez n'importe quel exercice de compréhension de l'écrit à la maison, les élèves, le premier truc qu'ils font, c'est d'aller utiliser des outils en ligne, ce à quoi je ne suis pas du tout opposé, hein, parce que les dictionnaires en ligne, je les utilise personnellement, à partir du moment, comme tout dictionnaire, de toute façon, où on sait les utiliser, lire les différentes entrées, etc. etc. ce que sont pas toujours... ce qui n'est pas toujours facilement fait par nos élèves. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont tous systématiquement sur Google Traduction. Vous avez beau leur parler de lingui, de reverse context, de base de données qui vont vraiment chercher des occurrences dans la littérature, enfin en tout cas dans des occurrences langagières existantes, sur des textes existants, donc qui vous produisent une langue authentique, mais pas justement une traduction mot à mot, ils passent forcément par là, puisque c'est le leader, et que quand on tape traduction sur un moteur de recherche, c'est forcément Google Traduction qui tombe en premier. Et bien en fait, vient de sortir un outil, moi qui m'a bluffé, qui s'appelle DeepL, donc Deep comme profond en anglais, plus un grand L, D2EPL.com. Vous trouverez ça dans les notes. Et c'est un traducteur qui se veut de bonne qualité, si vous voulez. Donc leur pitch, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment, j'ai partagé l'écran, c'est clairement de dire que c'est... qu'ils ont dépassé tous les traducteurs des mastodontes de Google, de Facebook, de ce genre de choses, et qu'ils travaillent en fait, je ne sais pas exactement, ils ne disent pas vraiment comment ils développent leur truc, mais c'est quand même une approche intéressante et la traduction est bien meilleure. Par exemple, là, j'ai pris complètement au hasard un texte issu d'un journal anglais, et rien que si vous voulez que la formulation française... Bon, voilà, la fédération policière a qualifié Theresa May de menteuse après qu'elle eût affirmé que certains policiers avaient bénéficié d'une augmentation blablabla.
Ouais, c'est vraiment, ouais.
Rien que ce subjonctif-là, si vous voulez, n'importe quelle Google Traduction, vous n'aurez pas traduit ça, puisqu'en anglais, on a « after she claimed », on aurait eu une traduction de prétérit de base, point barre, quoi. Sur la sémantique et sur la détermination, la qualité du nom, là, la fédération policière, bon, voilà, Police Federation, ça, c'est clairement des choses qui sont dans chaque pays différent, ça relève vraiment de l'idiomatisme. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que vous cliquez sur le mot, il vous propose en plus d'autres possibilités. Et donc, c'est une des fonctions du traducteur, c'est-à-dire que je pense que si des personnes trouvent que c'est pas terrible, ils vont choisir un autre mot qui est proposé et le logiciel enregistre, bien évidemment. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il s'améliore. Donc, bon, voilà, sur la traduction des noms, c'est pas toujours évident parce qu'il y a le contexte, parce qu'il y a différentes occurrences possibles, mais sur la grammaire notamment, c'est quand même assez hallucinant. Et bon, l'interface est très sobre, tout ça, mais c'est vraiment bien fait. Voilà. Donc, bon, c'est à la fois pour un prof de langue comme moi.
Bah oui, j'allais dire, qu'est-ce que t'en fais ?
C'est à la fois génial, quelque part, de voir qu'on s'améliore comme ça. Enfin, un prof de langue, on va dire, qui est intéressé par la technologie, je sais qu'il y a un paquet d'amis qui hurleraient contre ça. Et à la fois un peu flippant, quoi, de se dire que voilà, ça s'améliore et que finalement, on n'aura peut-être plus besoin d'apprendre les langues pour pouvoir communiquer. Enfin, c'est déjà un peu le cas, vous allez me dire, mais je veux dire, de vraiment bien communiquer. Il y a quand même une barre entre communiquer pour le minimum pour parler, se débrouiller dans un pays et pas mourir, si vous voulez, et parler une langue. On est bien d'accord là-dessus.
Bien sûr.
Les personnes qui disent « je parle l'anglais », oui, d'accord, tu discutes, quoi. Tu café du commerce. C'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. Bon, voilà. C'est, en tout cas, ce qu'on peut en faire, si, ce qu'on peut en faire, c'est que des apprenants leur montrer qu'on peut utiliser ces outils-là pour les aider à apprendre une langue et pas forcément comme premier recours, mais c'est vrai que c'est un défi qui est important pour nous, quoi. Voilà.
Putain, on va avoir des tonnes de commentaires, à mon avis.
Non, pas plus.
Allez-y, les profs de langue, allez-y.
C'est pas du tout. Alors, moi, j'ai testé qu'en anglais français, en plus. Et je pense qu'il y a encore, bien sûr, des limites. Mais en fait, le fait, moi, je le vois plutôt pour utiliser comme, OK, ben, vous voulez faire ça, allez-y, traduisez, utilisez. Mais dans ce cas-là, améliorer la traduction, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas encore, comment et pourquoi. Et là, ça va faire réfléchir les élèves sur la structure et sur la langue, quoi. Et dans les deux sens, en fait.
C'est le même principe que l'application qui fait en ce moment fureur de, on prend un problème mathématique et ça le résout avec toutes les étapes de mathématiques. Vous avez entendu parler de cette application?
J'en ai entendu parler, j'en ai pas encore parlé à ma chère et tendre épouse qui est en school de maths.
Je sais plus le nom exact, hein, mais c'est impressionnant, hein,
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est une autre vraie question, hein. Pour les langues aussi, on sait aussi cette application où on prend en photo un texte et il vous la traduit, mais c'est hallucinant, s'il vous garde toute la mise en page, en fait. C'est-à-dire, c'est même pas, il scanne, c'est dans la mise en page, il le traduit. Et moi, j'ai fait ça sur un menu, quoi. C'est hallucinant. C'est une sorte de réalité augmentée, en fait, hein, quelque part.
Ouais,
c'est
de l'intelligence artificielle d'ailleurs.
Et bon, voilà. En tout cas, ça s'améliore aussi de ce point de vue-là. Bon, voilà, c'est une réflexion à avoir. Je dis pas qu'il faut en parler à tout va quand on enseigne, mais en tout cas, ça existe.
Ça peut être un sujet qu'on pourrait faire sur une émission, ça.
Ouais.
Ce qui est intelligence artificielle dans l'éducation. Hein.
Tout à fait.
Bon, on continue ?
Ah bah, bien sûr.
Allez. Truc et astuce. Moi, j'ai rajouté un truc rapidement là que je viens de penser. C'est un petit. Je m'en sers très souvent quand je fais de la veille pour souligner un texte sur un site internet. Ça s'appelle. C'est une petite extension Chrome. Je crois que ça existe aussi sur Firefox, mais
sur Safari aussi.
Sur Safari aussi. Ouais. À vérifier. Qui s'appelle marker.to. Donc c'est un petit chose comme ça sur à l'écran, un petit marqueur jaune qui se met tout en haut là au niveau des extensions. On va cliquer dessus. Il va créer en fait une copie. Alors tiens, c'est peut-être le mauvais. On va faire ça. Il vous crée une copie de la page que vous êtes en train de regarder sur Internet. Et il va ensuite, vous allez pouvoir souligner donc tous les mots que vous voulez directement sur la page internet. Bon, donc on va pouvoir souligner tout ce qu'il y a sur cette page internet, et en plus il va vous faire carrément une adresse marker.to/ et le nom de la page. Donc vous allez pouvoir partager aussi cette page que vous avez surlignée. Vous allez pouvoir même collaborer sur cette page que vous avez soulignée. Moi, je m'en sers très souvent, justement, quand dans les teachers où je présente des articles, j'utilise très souvent ce petit outil-là. Voilà, c'est un petit outil, un petit truc et astuce qui est assez simple pour
Est-ce que tu peux télécharger ce que tu as souligné en PDF, quelque chose comme ça?
Pas du tout, non, je crois pas. Ben
D'accord.
non, non, je crois pas. À part le partager et avoir une adresse. Hein, cette adresse-là, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais elle dure depuis un moment, puisque des fois, dans certaines notes d'émission, j'ai partagé carrément cette adresse-là avec mes annotations. Donc voilà.
Ok, chouette.
Tout sympa, moi, je trouve.
Très bien. Bon, bah, je crois que pour rester le petit moment truc et astuce, rien de plus sur cette émission. On avance sur notre innovation et expérimentation.
Allez, il n'y a que moi qui ai mis quelque
C'est
chose, je
encore
crois.
toi, Jeff. Ouais, vas-y.
Donc là, je voulais parler d'un petit article que j'ai trouvé sur alors TVA Nouvelle. C'était un, alors, je sais pas ce que c'est un magazine d'actualité canadien,
Québécois, même, j'imagine.
québécois, ouais. Où justement, on va. Alors attends, je vais retrouver mon petit. Je les avais soulignés justement. Ben, j'ai tout perdu, super.
Là, ça marche bien.
Ouais, tu vois. Alors là, c'est les aléas du direct. Hein. C'est un article, en fait, justement, sur les provinces canadiennes dans l'Ontario, qui a investi justement pour développer des manuels numériques gratuits pour les étudiants des collèges et des universités. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont injecté, disait, 1 million de dollars pour créer des manuels donc collaboratifs créés par des enseignants, donc collèges et universités. Alors, le collège, c'est pas tout à fait pareil au Canada, mais. Je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais donc pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'on sait que l'enseignement, les études sont assez chères, en tout cas au Canada, puisqu'on dit qu'en Ontario, ils disaient que 35% des étudiants n'achètent même pas de manuel, car c'était trop onéreux. Hein. Donc c'est une des premières choses. Pourquoi ils l'ont fait aussi? Pour faire aussi des économies, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils arrivent faire, alors j'avais souligné ça, je ne sais plus combien d'économies, mais oui, ils disaient qu'ils allaient pouvoir faire, la Colombie-Britannique qui avait fait ça aussi depuis 2012, avait fait des économies de 4 millions de dollars sur cette création de manuels. Donc je trouve que c'était une idée plutôt intéressante qui se développe. Pourquoi ne pas le faire? Alors, pourquoi ne pas le faire? Il y a quelques obstacles, bien sûr, hein, où les gens, pour que tous les enseignants foncent sur ces manuels collaboratifs gratuits, c'est que tout le monde a peur donc de la qualité. Hein, c'est souvent c'est ce qui ressort, hein, de cette étude-là, c'est de dire que oui, c'est gratuit, donc la qualité est bien moindre. Ils disent qu'ils craignent que le processus de révision, donc la relecture, hein, ce que fait souvent quand on crée un manuel, n'est pas aussi rigoureuse qu'un manuel traditionnel. Eux, ce qui rétorque donc cet organisme dans l'Ontario, c'est que l'encadrement est aussi rigoureux puisqu'il est également soumis, ils disent, une révision par les pairs, exactement comme les maisons d'édition. Donc vraiment, ils se comparent et disent qu'il n'y a aucune différence avec une maison d'édition traditionnelle. Voilà, je trouve que c'était en tout cas une initiative
Ouais,
plutôt sympa.
bah ouais, je comprends pas l'argument de dire parce que c'est gratuit, c'est moins bien en fait. C'est exactement en fait quelque part comme si on se disait, on en parle d'ailleurs dans certaines villes quand on dit que les transports publics pourraient devenir gratuits. Je veux dire, les gens qui conduisent les bus et qui les réparent et qui organisent tout ça, ils sont quand même payés. J'imagine que là, les auteurs du manuel, ils sont payés.
Oui,
C'est pas parce que
je l'ai pas dit, bien sûr, ils sont venus.
c'est pas parce que pour l'utilisateur c'est gratuit que derrière les gens qui travaillent dessus le font moins bien parce que eux-mêmes sont moins payés ou quoi que ce soit.
Ouais,
J'imagine.
tout à fait. Et j'ai oublié de rajouter une petite chose super importante, c'est que ces manuels gratuits peuvent être modifiés par l'utilisateur s'il y a certaines choses qui ne lui conviennent pas ou le mettre à sa sauce, etc. Ça aussi, je trouve vraiment un truc assez sympa.
Je veux dire,
Voilà.
nous on travaille, c'est des grosses équipes d'éditeurs, d'auteurs sur ces choses-là.
Oh non, on n'en sait pas plus là-dessus, hein,
Non, pas plus.
cet article-là. Non.
Bon, nous en France, on a une maison d'édition collaborative qui est bien connue, qui commence à être très connue et qui fait du très bon travail. Ils sont nombreux et bon, c'est le livre scolaire pour ne pas les nommer. Et
D'accord, merci.
je veux dire, c'est pas pour cette raison, ils ont un modèle aussi de gratuité sur les manuels en ligne uniquement, hein, numérique, pas papier. Et je veux dire, c'est pas pour cette raison que le travail est moins bien fait. Le fait de travailler avec de nombreux auteurs, ça pose d'autres problèmes, hein, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, la qualité n'est pas, c'est pas ça qui réduit la qualité. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Tout à
C'est pas
fait.
parce que derrière c'est gratuit que ça réduit la qualité, quoi.
Et à contrario, c'est pas parce que tu payes que la qualité y est forcément.
Même assez souvent, on dit putain, j'ai payé pour, pas forcément dans l'éducation, j'ai payé pour ça, quoi. Enfin, ou vraiment dans des boîtes Afrique, voilà, ça peut être.
Tout à fait.
Ouais, après, je trouve. Voilà,
après, oui, vas-y, fini. Ouais. Moi, je vais te dire un truc aussi, il faut faire aussi marcher l'économie du pays aussi, voilà ce que je dis. Voilà. Donc ça aussi, c'est des lobbies aussi, à mon avis, tous ces trucs-là.
Oui, parce que de toute façon, c'est les collectivités qui financent, j'imagine.
Là, oui. Ouais.
Ah, c'est ça. Donc, si peut-être un moyen, effectivement, de faire un peu... Oui, d'injecter un peu, mais je trouve ça assez noble. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'une communauté, qu'une collectivité investisse dans ça, plutôt qu'investir dans... je sais pas, tu vas me dire les collectivités, elles n'investissent jamais dans des conneries, c'est toujours pour le bien public, mais... moi, je suis pas du tout... Je suis pas du tout choqué, j'entends l'argument.
Non, pas du tout, non.
Enfin, pas choqué, voilà. Mais en fait, moi, c'est une réflexion qui va beaucoup plus loin sur l'ensemble des ressources, c'est-à-dire que on voit bien qu'en France, en maternelle, en primaire, bon, ce sont les mairies, elles payent pour tout, hein, Seb, tu me confirmes, mais je crois que toutes les ressources, un enfant de primaire, les parents n'ont pas à débourser normalement un centime pour les études.
Ouais, dans les textes, c'est ça.
Dans les textes. Bon, après, ils achètent un agenda un peu personnalisé, certainement une trousse avec des trois choses, mais je crois que tout est fourni, quoi, normalement. Hein.
Oui, c'est le but de la prime de rentrée, d'ailleurs.
Voilà, nous, en collège, les livres, les manuels sont fournis, les fournitures, il faut les acheter, et à l'inverse, au lycée, il faut tout acheter, les manuels ne sont même plus fournis. Mais à partir de quel moment, par exemple, dans un lycée, on pourrait forcer quelque part une famille est-ce qu'on peut décemment forcer une famille à acheter du matériel s'il n'est pas fourni par la collectivité. Ouais, si demain on arrive et qu'un parent de lycée dit moi non, je ne veux pas acheter ça, c'est l'école publique. Enfin, bon, je pousse un peu le raisonnement plus loin, mais donc finalement, je ne sais pas trop.
Oui, après, ils ont aussi cet article-là, c'est sur un modèle canadien, donc où les études sont très très chères, hein, tu as vu. Donc,
bien sûr.
Voilà, on n'est peut-être pas comparable par rapport.
Non, mais complètement. Il faut qu'on reste comparable. Mais moi, je trouve ça vraiment.
C'est dommage que Sébastien n'est pas là ce soir, tu vois, par exemple, il aurait pu nous
parler de ce qui se passe du côté de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord. Voilà. Bon.
Voilà. Je trouvais cet article intéressant, en tout cas.
Eh bien. Non, rien, c'est bon. Pardon, on va enchaîner. Sur l'actualité.
Je sais que tu voulais rebondir sur les manuels.
Oui, mais je rebondirai justement dans la partie sur ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Mais je vais quand même rebondir là pour parler en fait d'un article que j'ai lu rapidement dans l'actualité. C'est un peu cocorico, donc sur le site de Forbes. Donc pour ceux qui connaissent Forbes, c'est plutôt un magazine économique américain à la base, qui a une édition maintenant, depuis longtemps, une édition en ligne française. Et voilà, j'ai vu ça l'autre jour sur un réseau social plutôt professionnel où quelqu'un partageait en fait un article sur les 10 entreprises françaises de la EdTech, je ne sais même pas vraiment qu'on appelait ça comme ça, qui sont à suivre. Je pourrais digresser sur le terme EdTech qui me gonfle particulièrement, mais ce n'est pas grave.
Il y a beaucoup de hashtags qui passent en EdTech, ouais.
Voilà, bon, peu importe. En tout cas, juste pour dire que c'était cool parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup qui travaillent dedans et on retrouve justement le livre scolaire en numéro 6. Bon, après, encore le school en numéro 3 avec qui on travaille aussi beaucoup, mais ça, c'est plus perso. Tout ça pour dire qu'il y a de belles entreprises en France qui développent et qui travaillent dans le secteur de l'éducation de plus en plus. Bon, on va pas revenir sur chacune d'entre elles, parce que bon, il y a des choses sur lesquelles on pourrait débattre aussi, mais en tout cas, c'est chouette, voilà. C'est bien de voir que ça bouge un petit peu et qu'il y a des gens qui ont des idées et qui ont envie de faire un peu bouger les choses. Mais ça me permet aussi d'alimenter ce que je dirai en 7 après, sur la partie, sur ce que je fais en ce moment, parce que tout ça est relié. Voilà. D'accord.
Donc, on essaiera de partager cet article-là avec les...
Voilà. Bon, c'est plus de la lecture, rien de bien...
D'accord, on les mettra de l'émission.
Voilà.
Ok, allez. Je voulais faire un petit retour sur Ludovia, où j'ai été pour la première fois... je ne sais pas si on appelle ça l'université d'été, ils appellent ça donc Ludovia à Axe et Termes.
En Ariège.
Ou en Ariège, à Frontières, à Andorre, pas loin d'Andorre.
Frontières espagnoles. En dessous du pas de la case, en tout cas. Tout voilà.
Très joli coin, très joli. Hein. J'ai pu un petit peu me balader quand même sur ces trois jours. Donc, j'ai été... J'étais là-bas déjà pour le par rapport à ma fonction à la Dame de Lyon. Donc on avait une journée, nous, une troisième journée qui était ils appelaient ça les Jeannettes, donc la journée des acteurs du numérique éducatif et des territoires. Voilà, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Où il y avait toute la direction du numérique éducatif qui était là, donc j'en parlerai un petit peu. Donc moi j'ai fait trois jours là-bas. Première chose, c'est un peu c'est le dress code. Il y en a pas. C'est ça qui est assez cool, hein. C'est qu'on arrive en short et en tong. Hein. Bon, au début, je savais pas comment me foutre, je savais pas quoi prendre dans mes affaires. C'est la première chose qui m'a surpris, c'est que entre l'inspecteur, ceux du gouvernement ou le petit prof comme moi, et ben on est pareil, on est en short, on est en claquette. Hein. Donc ça, c'est assez sympa, c'est que ça fait les rapports humains sont vraiment beaucoup plus faciles, hein, autour d'un verre, au terme par exemple, on discute en maillot de bain des fois. Donc voilà, ça c'est le gros côté positif de Ludovia, je trouve. Je suis pas le seul à dire ça, hein. Beaucoup de monde le disent. Mais c'est un côté vraiment vraiment sympa là-dessus. On tape des discutes avec des gens qu'on penserait pas discuter. J'ai discuté avec un certain Marcel Lebrun. Je sais pas si vous connaissez Marcel Lebrun. Un universitaire qui pousse beaucoup la classe inversée, donc on peut discuter avec lui autour d'un verre, donc c'est assez, voilà, rien que pour ça c'est sympa. Et puis bien sûr il y a la programmation, après il y a la programmation officielle et puis il y a le off dans Ludovia, il y a beaucoup de off. Dans la programmation officielle, il y avait toute la partie scientifique et conférences et tables rondes sur plein de sujets. Donc le sujet de l'année, le grand thème, c'était partage, échange et contribution avec le numérique. Et on a eu une première journée qui était vraiment basée sur le code. Donc ça tombe bien. Hein. Donc il y a eu des choses assez intéressantes. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Thierry Carcenti, qui est québécois. Il y avait toute une colonie québécoise, Thierry Carcenti, qui pousse beaucoup, qui est un chercheur. Qui pousse beaucoup le code à l'école, qui pousse beaucoup l'utilisation de Minecraft en classe, qui a fait une sacrée conférence sur l'utilisation de Minecraft en classe, super intéressant. Découvert aussi quelqu'un que si vous pouvez trouver sur les réseaux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, c'est un prof des écoles qui s'appelle Éric Itier, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui nous a parlé du code en classe, sa façon de travailler. Il a fait un projet avec le petit robot Nao, je ne sais pas si vous en souvenez, le robot Nao, en direction des élèves en situation de handicap. Vraiment un projet super intéressant, donc je vous conseille d'aller voir tous ces travaux Éric Itier que j'ai découvert là-bas. Je vais prendre un petit peu tout ce qu'on va suivre. Création de jeux vidéo. Alors là, je suis tombé sur un projet qui m'a aussi bluffé. C'est une académie qui a essayé de réunir des profs et des créateurs de jeux vidéo pour créer des serious games en je crois que c'était en 36 heures. Donc on enfermait tout le monde ils ont enfermé tout le monde pendant 36 heures, trouver un pitch donc du serious game et le développer, et en 36 heures ils nous ont fait voir des exemples de ce qu'ils ont pu faire. C'était assez bluffant, hein, déjà de qualité, hein, du jeu entre développeurs et enseignants. Ça s'appelle Edugam Jam. Vous pouvez aller chercher. Chercher le nom. C'est Jean Caz sur Twitter. Vous allez trouver. C'est assez super ce qu'ils ont fait, en tout cas. Beaucoup de choses sur la réalité virtuelle. C'était aussi le grand truc de la réalité virtuelle en ce moment.
Bah, tout le monde en parle. De partout.
Ouais, tout le monde en parle. Alors, je cherche. Il y avait une collègue à toi, justement, Guillaume, que je suis tombé, une prof.
Oui, c'est en
Allemagne.
Une Allemande. C'était une co-organisatrice avec moi de Cyberlang. Cyberlang d'ailleurs qu'on a mené conjointement l'année dernière, en fait, hein, pour la dernière édition du colloque avec Ludovia. Voilà.
Voilà, et elle était vraiment, elle faisait des trucs assez bluffants avec en réalité virtuelle, donc vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi une certaine Marie Soulier, vous connaissez peut-être, elle est très active sur les réseaux et beaucoup de choses, qui a présenté beaucoup de choses sur la réalité virtuelle, le prendre des photos des photosphères, vous avez des photos à 360 degrés, annoter des choses sur cette photo, etc. Donc vraiment, vraiment sympa. Là, je vous dis vraiment ce que moi, ce que j'ai noté. David Plumel aussi, c'est un prof de techno, alors ça va plus m'intéresser moi. David Plumel qui utilise Minecraft en classe, mais à des années-lumière de ce que je fais, quoi. Moi, je pensais uniquement comme construction. Lui, il arrive à l'utiliser, à faire du code. Je ne savais pas qu'on pouvait coder dans Minecraft pour faire des constructions automatiques rien qu'avec en codant. Donc, il arrive avec ses élèves à coder des choses dans Minecraft pour que la construction se fait automatiquement.
Là-dessus, si tu veux voir des trucs assez impressionnants, tu vas voir sur YouTube. Il y a des fêlés là-dessus. Il y a des fous.
D'accord. Pareil, puis il a travaillé en SVT. Il a construit des choses avec la prod SVT. En fait, sur Minecraft, il arrive à faire avec plein de matières différentes d'utiliser Minecraft. Donc, c'est assez bluffant ce qu'il fait. Si vous êtes intéressé, en tout cas, David Plumel, avec 2 M, vous cherchez ce personnage. Et en plus, c'est un personnage. Donc voilà. Le personnage, je pense, de ce Ludovia, s'il y en a un à sortir, c'est un Québécois qui s'appelle Roberto Gauvin, qui est un directeur de classe perdu, je ne sais plus dans quel coin du Canada, mais assez perdu. Il a fait une présentation, alors ils avaient une présentation un soir qui s'appelait un Pechakusha, donc je ne sais pas si vous connaissez les Pechakusha, c'est... c'était 20 slides en temps limite. Bon, il devait nous présenter sur la partie partagée, échange. Et son école, c'est l'école de rêve. Voilà. Il n'y a plus de murs, il n'y a plus de classe, il y a de la collaboration sans arrêt, de la technologie de partout. Les élèves sont en totale autonomie. C'est assez hallucinant. Le personnage de Roberto Gauvin est assez fantastique. À la question, quand on lui répond oui, mais est-ce qu'il y a des plus-values à votre enseignement, à votre classe, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que les élèves ont des meilleurs résultats, la chose qu'il répond, c'est qu'il nous a mis un graphique de deux sourires, de deux filles qui souriaient, hein, et avec un graphique où les sourires montaient. Donc il a dit rien que ça, voilà, c'est pas mesurable, mais c'est rien que ça déjà. Voilà, voilà, voilà ce que j'arrive à mesurer moi dans mon école. Donc voilà, c'est trouvé en tout cas. Voilà. Donc cherchez Roberto Gauvin, c'est Gauvirou, je crois, sur Internet, sur Twitter. Quelqu'un d'assez fantastique et qu'ils ont participé justement à une table ronde sur l'aménagement en classe. Moi, c'est vrai que c'est une problématique en ce moment qui. Je me fais beaucoup de choses, j'ai essayé, je vous en parlerai tout à l'heure dans ce qu'on fait en ce moment. C'est vrai que l'aménagement de classe, c'est quelque chose qui, une problématique qui me semble importante en ce moment. Donc, il y avait avec un certain Bruno Vergne, qui est prof en collège, qui a fait des choses assez fantastiques, justement, sur l'aménagement de classe, sur des placements debout, travailler avec des élèves moteurs, voilà, plein de choses assez intéressantes. Vous pourrez aller chercher ce monsieur Bruno Vergne. J'ai parlé tout à l'heure de Marcel Lebrun. Donc Marcel Lebrun, si vous connaissez pas ce personnage, c'est aussi un sacré personnage qui pousse beaucoup la classe inversée, mais qui pousse surtout les classes inversées en disant qu'il n'y a pas une classe inversée, mais qu'il y en avait plusieurs. Il est en université et il nous a fait une conférence sur toute l'école, toute la vie durant, hein, comment l'école n'avait très peu bougé finalement en 50 ans. Hein. Il avait commencé avec une photo d'une classe il y a 50 ans et une photo actuelle. On n'avait pas grand changement. Hein. Et pareil, hein, il a été faire voir aussi que les grands mots, ça a été bien sûr collaboration, coopération, autonomie. Voilà, donc c'est quelqu'un, vous pouvez retrouver en tout cas ses vidéos, ses conférences sur Ludovia. J'en oublie sûrement des choses qui m'ont marqué. Alors j'ai eu cette journée aussi que je vous disais, les journées des acteurs de l'éducation avec plutôt toute la partie gouvernement, où là j'ai appris plus du côté un petit peu de ce qu'ils allaient pousser un petit peu le gouvernement en France sur le numérique. C'est le BIOD en ce moment. Le BIOD, c'est le grand mot, tout le monde veut en faire. Donc le BIOD, c'est le fait d'amener son appareil, que les élèves amènent leur propre appareil en classe. beaucoup d'expérimentation. C'est quelque chose qu'ils ont envie de pousser en ce moment, hein, le BIOD. Donc ça, c'est, est-ce que ça va dans le bon sens? Moi, c'est vrai que je suis convaincu par le BIOD. Hein, tout le monde n'est pas convaincu. Mais c'est le gouvernement, en tout cas, a l'air de pousser drôlement dans cette direction.
Bon.
Le côté fun, après il y avait le côté fun, forcément. Après le côté, voilà. Le côté fun, c'est que Ludovia, ben, on rencontre un peu toute notre timeline Twitter, en fait. Hein, c'est marrant. Tous les gens qu'on a vus ou qu'on a invités. Hein, j'ai eu la communauté Edmuse, hein, qu'on avait reçue.
Yes.
Voilà, donc j'ai pas rencontré tout le monde, mais j'ai rencontré Benoît Kiri, où on a pas mal parlé ensemble. Voilà, j'ai rencontré les collègues de Nipédu, hein, aussi, mm-hmm. qui sont assez sympas. Ils m'ont même interviewé. Hein.
Wow.
Ils m'ont même coupé la chic, vous verrez, dans leur dernière émission. voilà, très sympa en tout cas. Et ils ont vu qu'une chose, c'est qu'on revienne l'année prochaine et qu'on fasse un truc ensemble. Hein, je te le dis.
Ouais, et on va le faire, on va le faire, on va le faire.
Voilà. Le côté sympa, ben voilà, c'est après que ça finit assez tard dans la nuit, après, hein, autour d'un verre. Les discussions continuent. Les termes, c'est fantastique. Voilà. Franchement, j'ai discuté avec quelqu'un du gouvernement qui était juste en communication, qui était dans le service communication de la DNE. On a discuté, voilà, dans la piscine en maillot de bain. Donc c'était assez sympa. Donc tu vois, rien que ça.
Il va falloir s'arrêter là, dis donc.
Non, mais voilà, tu vois, c'est des trucs, voilà, un peu hallucinants là-dessus. Voilà, j'en oublie sûrement, mais je trouve que moi qui ai fait quelques salons comme ça, enfin, en plus, je ne le classerais pas comme un salon, quoi.
Non.
C'est vrai que le nom Université d'été, c'est, ça convient bien. Sacrée organisation, par contre, hein, sacrée organisation, au point de vue repas, au point de vue, et le off est assez sympa. Le off. Est vraiment très sympa. Moi qui en ai fait plusieurs, franchement, il y en a un à faire, c'est celui-là. C'est un très joli coin. Voilà, je vous ai dit, hein, je me suis un peu baladé. On a eu le temps de faire des petits footings. C'est comme ça que j'ai rencontré toute l'équipe de Nipédu, hein, à travers un footing de bon matin. Voilà, le seul problème, c'est que ça fait loin. Hein. Putain, en train, c'est loin.
Tu m'étonnes.
Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai pas souvent pu y aller, en plus du fait qu'au début c'était en même temps que Cyberlang, mais ouais, c'est la région est super jolie parce qu'il se trouve que j'étais en vacances par là-bas au mois de juillet et c'est magnifique, mais ouais, c'est pas à côté. Mmh.
Tout à voilà. Fait. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire un petit compte-rendu. Moi, j'étais il y en a beaucoup. Moi, j'avais un programme, je m'étais défini un programme. Je me suis pas tenu du tout au programme. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça met un bon coup de boost, voilà. Tu vois, la rentrée, ça te met un bon coup de boost. Tu dis, il y a plein de choses à tester. J'ai envie de tout tester, hein, voilà. J'ai oublié un truc, ouais. J'ai oublié Survive on Mars. Pardon. Je fais un aparté. Survive on Mars, c'est un serious game inventé par deux profs d'SVT. Mais c'est tout bête, en fait. C'est avec que des outils qu'ils ont eu. Que des outils gratuits en ligne, ils ont fait ça. C'est comment vivre sur Mars. Ils ont mis de la SVT, de la physique, du français à l'intérieur. Vraiment génial. Que des bonnes idées et techniquement des choses très simples. Vous pouvez aller voir Survive on Mars sur Internet et vous allez voir, il y a plein de choses super intéressantes. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, j'espère y retourner peut-être l'année prochaine. Notre moment, mais c'est vraiment à faire en tout cas.
Bah, si on peut, on se fera peut-être un convoi e-teachers, ça serait sympa. Hein,
ouais, voilà, j'espère. Ouais, j'espère que je vous ai donné envie en tout cas. Bon.
Ouais, c'est tout pareil. Je connais pas mal de monde là-bas et à chaque fois, ah, clac, 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 clac. Donc il faut qu'on s'organise ça. Très très bien. Et ben ça va me permettre un petit peu d'avancer sur notre dernière partie, sur ce qu'on fait en ce moment. Et voilà. Moi j'avais envie de parler un petit peu de.
Voilà, c'est la nouvelle rubrique, attention, hein, tout nouveau.
Voilà, ce qu'on fait en ce moment des manuels numériques, parce que, et ça, en fait, ça va un peu au-delà du simple manuel numérique, vous allez comprendre pourquoi, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit beaucoup aujourd'hui, à savoir que dans mon établissement, je suis référent numérique pédagogique. Et donc, une de mes missions, c'est justement de gérer en début d'année tout ce qui est maintenant l'afflux ou le renouvellement de toutes ces licences de manuels que l'on peut avoir, puisque tous les éditeurs se mettent au manuel numérique. Et donc, tous nos élèves ont droit, dans toutes les matières, au manuel numérique. Et ben voilà, c'est le bordel. Je crois que c'est clair. Moi, j'ai fait un constat cet après-midi, puisque voilà, devant tous mes l'importation de mes fichiers CSV pour essayer de tout faire passer via l'ENT, pour que ce soit pas justement que les élèves aient tout via l'ENT, que ce soit pas chaque prof donne son code, que ce soit pas le BINS. Et en fait, en faisant une petite enquête rapide sur mes collègues et puis en communiquant avec d'autres collègues d'autres collèges, en fait, c'est pas utilisé. C'est très peu utilisé. C'est vraiment minime. Et c'est un petit peu un coup de gueule, en fait, parce que j'ai l'impression un peu de me battre depuis quelques années. On parle de massification des usages et j'ai encore l'impression que ça reste encore trop, finalement, que quelques personnes et un peu toujours les mêmes qui vont utiliser ces outils-là. C'est-à-dire que l'année dernière, sur toutes les licences que j'ai déployées, en fait, d'activer, au final, il y en a eu très peu, parce que soit les élèves n'en ont pas besoin à la maison, parce que finalement, et c'est peut-être ça la solution, j'en sais rien, le manuel est trop compliqué à installer, et ça revient un peu à ce que je veux dire. Chaque éditeur a son système, en fait. C'est clairement l'horreur. Donc, en fait, et je dis ça en étant moi-même, par ailleurs, auteur d'un manuel qui a aussi son propre système et que je connais bien, mais en fait, c'est complètement, absolument pas transparent quand on voit la masse d'informations qu'on donne aux élèves en début d'année. Alors, chaque prof tout seul a l'impression que les élèves écoutent bien parce que c'est ce que c'est d'enseigner dans un collège. Sauf qu'en fait, chaque gamin, à chaque heure en début d'année, il change, on leur dit autre chose. Et en fait, résultat des courses, ils sont, c'est même pas sous-utilisé. On a acheté l'année dernière en établissement 120 licences pour un manuel de SVT. Elles n'ont jamais, il n'y en a pas une seule qui a été activée. Donc ça, si ce n'est pas de l'argent facile pour les éditeurs, ben, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelques éditeurs quand même qui proposent maintenant, voilà, une fois qu'on a acheté les manuels, juste un lien en fait, vers le manuel numérique en ligne, sans compte, sans création de trucs. C'est via KNE pour ne pas le citer, et c'est à Thier. Et franchement, partant du principe que voilà, ils ont acheté les livres papier, ben voilà, et je me demande, enfin, c'est quand même, ça me paraît tellement plus évident, voilà. Et donc c'est un petit peu en fait cette réflexion que je voulais avoir sur l'ensemble de ces usages, parce que c'est un peu pareil aussi sur les tablettes, c'est un peu toujours les mêmes maintenant que ça fait quand même 4, 5 ans, 6 ans qu'on commence à les voir débarquer. Quand on en rediscute et qu'on parle pour le coup vraiment de la massification des usages, je dirais, toi, ton collègue qui à la base n'avait pas bien envie, est-ce que finalement, bah non, lui non quoi. Lui, voire même, il est toujours sur son vieux manuel. Et ça, c'est ça le problème, je trouve. C'est qu'on a du mal quand même, à mon sens, à vraiment, vraiment faire en sorte que… Bon, il y a plein de raisons à tout ça. Hein. Et c'est un petit… Voilà. Moi aussi, comme toi, Jeff, à la rentrée, j'ai envie de faire plein de trucs, d'essayer plein de nouveaux trucs. Nous, on en parle dans l'émission, mais j'ai l'impression que c'est… Bah, c'est difficile de comment communiquer ce sentiment-là à nos collègues. Quoi. C'est vraiment pas évident. Voilà.
D'accord. Bon, alors plutôt un.
Non, c'est pas. C'est un... En fait, au début, c'est parti vraiment du principe. Je pense que c'est vraiment lié, comme tu dis, et comme tu as prouvé, à la diversité des outils. Ce qui fait que quand on n'est pas un peu technicien comme nous et ayant déjà un penchant en fait pour ce genre de truc. Moi, je vois même moi, mes collègues, je sais pas vous dans vos établissements, enfin Seb, toi, le premier degré, c'est peut-être différent encore, mais rien qu'activer leur propre manuel numérique, c'est déjà parfois la croix et la bannière, en fait. Enfin, dans un gros collège comme le mien, après, ça dépend aussi la taille, ça dépend plein de choses. Mais voilà, donc.
Non, mais le manuel numérique.
On va se mettre d'accord sur un seul format pour tous, quoi.
Oui, en tout cas, en France, je sais pas si ça marche comme ça ailleurs, je sais pas, j'ai pas trop de regard extérieur, mais c'est vrai qu'un manuel numérique, ça devient une grosse galère. À installer tout le monde me jette l'éponge. Moi, j'ai jeté l'éponge le premier. Hein. J'ai eu un moment, j'ai jeté l'éponge. C'était moi, tellement compliqué encore. Que voilà.
Moi, c'est pour ça que moi, cette année, là, cet après-midi, je me suis vu à faire mes fichiers CSV de tous les élèves pour toutes les matières et compagnie. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, il y en a trois qui vont l'utiliser. Quoi. Donc, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose finalement? Donc, je ne sais pas. On va. On verra bien ce que ça verra. Mais pour l'instant, autant je crois au manuel prof, par contre projetable, avec tout ce que ça apporte comme ressources, bien évidemment, autant de manuels individuels, les gamins. De toute façon, c'est déjà une réflexion plus large sur le manuel scolaire tout court. Hein, sur papier ou pas, est-ce que déjà il était utilisé à la maison? C'est une chose. Donc en plus, numérique, avec tous les obstacles qu'on connaît à technique,
Non, puis le manuel numérique, tu n'as pas le bon client en face à moi.
Ouais, ben bah voilà. Voilà. Non, mais... voilà, ça faisait un peu partie.
Non, mais voilà, on peut parler du manuel en général, quoi, sans parler de numérique.
Ouais, mais voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord, bien évident. Mais voilà, c'est pas évident, je trouve, parce que voilà, même sur les usages nomades, sur tout un certain nombre de trucs, c'est beaucoup souvent les mêmes personnes. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne et dans les formations que je donne beaucoup, j'ai quand même du mal à faire en sorte que ça devienne vraiment régulier. Ça reste encore un peu trop à la marge de temps en temps. Je vais, voilà. Mais bon, il faut continuer à se battre. Hein. Mais je pense que pour résumer ma pensée, je pensais que ça irait plus vite. On n'est plus dans les balbutiements maintenant. Quoi. Enfin, c'est bon, le numérique éducatif, c'est pas nouveau maintenant, ça y est. Et ben, on est encore loin de la portée à laquelle je pensais peut-être en 2017 sur nos collègues. Quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout pour ça qu'il faut ne faut plus rien faire.
Bon, d'accord. Ok, t'en es là, c'est bon. Tu galères avec tes manuels.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, voilà.
Bon, j'ai beaucoup parlé. Vas-y, Seb, allez. Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Écoute, moi, je galère aussi. Hein,
c'est pas, voilà.
Pas de raison. Mais c'est pas avec des manuels. Moi, c'est avec OneNote. Hein.
Ah.
Alors si chez Microsoft, ils nous écoutent, on ne sait jamais, hein, mais sincèrement, si vous vouliez conquérir le domaine éducatif avec ça, il faudrait vraiment repenser un petit peu la chose. Mais faire ça, c'est lourd. Tu sais, tu disais, c'est toujours les mêmes, etc. Oui, moi, à chaque fois que je passe dans une école, je deviens le référent. Je deviens monsieur ordinateur. Ah ouais, il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais toi, tu t'y connais? Ouais. Ouais, enfin bon, là, c'est pas s'y connaître, hein, mais bon, c'est pas un souci. Donc là, en ce moment, j'essaie de mettre en place OneNote Classroom et de l'utiliser dans l'idée. Alors l'idée de base, elle est super, c'est que chaque gamin est un OneNote, en gros, et c'est sur OneNote, il y aurait trois espaces. Un espace où je mets des ressources, mais ils peuvent seulement les lire. Un espace où on peut tous collaborer ensemble, et un espace rien qu'à lui, où il peut classer les trucs comme ça. Bon, j'ai un droit de regard dessus, mais voilà. Donc ça, c'est l'idée de base. Et l'idée de base, je la trouvais géniale, parce que ça correspondait à ce que je faisais avec Evernote il y a des années, mais vraiment perfectionné, etc. Super. Sauf que derrière, il y a une machinerie à mettre en place. Alors, je pensais que ça allait être facile parce que tu démarres en achetant un nom de domaine, tu obtiens une licence Office 365, etc. Donc, arriver au bout de ça, qui m'a pris quelques heures quand même, parce que je sais pas, je dois pas être très doué là-dessus, je reconnais. J'arrive là-dessus, je me dis, bon, ça y est, j'ai créé des comptes pour les gamins, j'ai des trucs, je vais pouvoir enfin m'amuser un peu. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est pas le ça fonctionne pas du tout, et je me doute un peu pourquoi. C'est que ça ne fonctionne pas, enfin presque, parce qu'il y a un gamin pour qui ça fonctionne, je sais pas pourquoi ça fonctionne pour lui et pas pour les 19 autres. Et je me tape la tête contre les murs là en ce moment. Donc là, je me suis donné jusqu'à la fin du mois de septembre pour réussir à faire marcher cette merveille. Et puis ensuite, si elle marche pas, j'ai en train de me taper la tête contre les murs. Voilà. Sinon, à la base, ça a l'air très simple à faire. Hein. Vraiment. Hein, appuyer sur des boutons, ajouter des utilisateurs, tout ça. Je ne voyais pas la difficulté. Enfin bon, dans les faits, franchement, c'est vraiment réservé à une petite population d'enseignants, ce genre de truc. Hein. Ils ont mal calculé leur coût, là, s'ils voulaient vraiment brigader le monde.
Ouais, toute la partie administration est un peu lourde. Ça. Mais je te rassure, hein, chez Google, c'est la même chose. Hein, c'est la partie administration.
C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Je faisais la remarque une fois à une nana qui développait un logiciel. J'ai dit, ton idée, elle est géniale. L'idée derrière, elle est géniale. Mais si ce n'est pas facile à utiliser, on va l'utiliser une fois, puis on va se dire, ah ben non, c'est gonflant, quoi. Ben là, pareil. Ouais, quoi. L'idée derrière, elle est super. Ah ben tiens, je vais pouvoir partager. Il y a des trucs qui ne pourront pas modifier. Bon, ouais, vos bloc-notes ne sont pas accessibles. Dommage. Réessayez dans quelques instants. Oh, ouais, ça va.
Ok. Ouais.
Voilà. Bon, ça va.
Oui. Ok, bah, tu nous en reparleras aussi, alors, cette note.
Oui.
Bon, allez, une petite galère encore, Jeff, pour continuer.
Ah non, pas tant que vous galère. Moi, j'ai dit que j'étais à fond plan de classe, aménagement de classe, ludification, c'est ma grande passion en ce moment. Donc, ludification, j'ai remis en place moi Classe Dojo, comme j'utilise souvent. Donc, Classe Dojo, ce petit outil pour annoter les élèves, etc. Il y avait pas mal de nouveautés sur Classe Dojo, en plus, je ne sais pas si vous avez vu.
Oui.
Et ça, c'est sympa, justement, les chronos, les créations de groupes, on peut avoir même des interactions entre les machines des élèves et la machine du prof. Donc, pas mal de petites choses, c'est sympa. Donc, j'ai mis ça en place. Les parents de sixième ont vachement bien pris en main. Donc, voilà, j'ai mis ça en queue dans mes petites classes, hein, sixième, cinquième. J'ai pu réessayer les troisièmes, ça n'a pas trop pris. Donc, ils ont bien aimé ce petit jeu, dire les compétitions entre classes, voilà. Et sur mes plans de classe aussi, hein, comment faire mes plans de classe, c'est la grosse galère, ça. Hein, et lui, alors il faut le mettre à côté de lui, etc. Voilà. Et mon architecture de, mon archi, mon architecture de classe a un petit peu changé aussi. J'ai essayé de faire une place debout, tiens, cette année. C'est le test. J'ai mis une place au fond pour les élèves je sais que j'avais un ou deux élèves un peu hyperactifs. J'ai dit, tiens, je vais essayer de le tenter, travailler debout pour voir si ça marche. Ça, je vous dirai. Voilà mes petites rentrées. Ma petite rentrée, c'est le Marshmallow Challenge. Vous connaissez ça?
Non,
Bah,
non.
vous taperez sur Internet, vous verrez. Pour faire marcher la coopération entre élèves, quand les élèves se connaissent pas, les élèves pour leur faire voir qu'en techno, eh ben, on va apprendre à coopérer, à collaborer, et qu'il faut écouter la parole de tout le monde. C'est un petit jeu assez simple. Vous avez 18 spaghettis, un marshmallow, un mètre de scotch. De la ficelle, il va falloir monter la structure la plus haute possible en 18 minutes. Voilà. Et si on collabore pas, ben ça marche pas. Voilà. Je vous
Mmh,
ferai
je suis en train de
des petits
lire
retours
le
de ça.
truc, ouais.
Ah oui.
Ça a l'air vraiment sympa, c'est rigolo. Enfin, moi, en anglais, c'est pas évident, parce que si je leur demande de le faire en anglais, le temps qu'ils se comprennent, c'est 2 jours qu'il leur faut.
Donc voilà, c'est pour l'aspect collaboratif, hein, de faire voir que finalement, si tu collabores pas, ça marche pas.
Bon, eh ben, c'est chouette.
Voilà ça. Voilà ça.
Très bien, et ben, on va arriver au terme de cette émission. On se fait un petit pourparler d'autre chose quand même?
Ouais, je vous laisse la parole. Moi, j'ai rien mis pour ce soir.
Allez,
Voilà.
vas-y, Seb.
Allez, moi, je vous le fais rapidement. Hein, quand j'ai fini de m'énerver après mon ordinateur, eh ben, je vais sur YouTube et je regarde des petites vidéos consacrées aux meurtres dans l'histoire. Voilà.
Ah, c'est
Alors.
sympa. Ah oui,
Alors.
là, vous fait
Voilà,
rêver.
vraiment, c'est une petite chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Horror Humanum Est. Ça vous raconte des meurtres, mais des histoires horribles de l'histoire. C'est fait en petite animation. C'est une petite merveille. Le gars a une diction, mais parfaite. Et il vous raconte ça. C'est présenté avec une petite musique toute douce au début, un petit air de classique. Et puis ensuite, le gars te débaroule que, ah ben tiens, voilà, à cette époque, ben, il faisait des pyramides de tête humaine pendant le siège de telle ou telle ville. Ouais, voilà. On regarde ça, c'est sympa. Il a eu un
D'accord,
peu de mal à démarrer. Là, maintenant, il a 80 000 abonnés, le monsieur qui fait ça. Et au départ, il devait faire ça avec un historien, etc. Il a pas réussi à avoir tout ce qu'il voulait, et en définitive, il fait ça avec ses moyens à lui, et c'est vraiment un petit bijou, vraiment.
mais c'est véridique, quoi. C'est que des
Ah oui,
histoires.
non, ce sont des véritables histoires. Du coup, le problème, c'est que ce sont des véritables histoires parfois. Hein,
Fait
voilà.
peur, là. D'accord.
C'est ouais, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Il y a la petite vidéo, il y a les pyramides de Timur, par exemple, qui sont pas mal. Dans une vidéo, il te raconte comment on a baptisé le Colisée à Rome en massacrant un nombre d'animaux phénoménal. C'est horrible. Mais c'est très bien fait. Voilà. Non, je vous le dis.
Me fais rêver.
Un petit what not, un petit ça, et puis vous allez vous pendre. Voilà. Allez.
Ok, Guillaume, vas-y.
Bon, ok,
Tu peux
alors
dire ça.
c'est parti. Moi, je vais vous parler d'un site qui s'appelle radio.com, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 O de radio, qui est une pure merveille pour les mélomanes et les amateurs de musique dans le temps. Alors, en fait, c'est le concept, c'est très simple, c'est une radio, comment dirait-on?
Et t'en avais pas déjà parlé de ça.
Eh bien, je suis en train de me demander.
Si, si, si. Oui, mais ça arrive, ça. Tu sais, t'as pris un coup de vieux. Alors, un coup.
Non, en fait, pourquoi j'en ai parlé, parce qu'en fait, j'en ai reparlé à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui aime la musique, et je me suis dit, tiens, ça fera un super truc pour les teachers. Et je vous le représente pas, vous irez voir, voilà, Radio dans le temps. Si vous avez envie d'écouter ce qu'ils écoutaient en 1940, vous cliquez dessus. Alors peut-être la petite nouveauté qu'il n'y avait pas à l'époque.
Ouais, vas-y, vas-y. C'est un haut de plus.
Vous pouvez, il y a un haut de plus. Vous pouvez maintenant uploader vous-même des chansons si vous voulez proposer des choses. Alors bon, nous en France tout est mis, mais si jamais vous avez un ami qui vit au Galapagos et qui a envie d'uploader la musique traditionnelle du Galapagos en 1932,
il peut le faire,
ça augmentera la base de données du site. C'est vraiment très très sympa. Je suis désolé, tant pis.
Non, mais après c'est un site très sympa, c'est vrai.
C'est vrai que c'est rigolo.
Je m'étais amusé à naviguer dessus, c'est très sympa. Ça va.
Bon, et ben tant pis pour moi. Voilà, très bien.
C'est pas grave. Bon, et ben voilà, on arrive au terme de cette édition, hein, cette première de la saison 5. Hein, voilà.
Plein de choses à se dire.
J'espère que tout le monde a bien repris, en tout cas. Hein.
Bah, écoute, plein de barres.
À fond les ballons.
Je vais aller uploader mes fichiers CSV sur l'ENT pour pouvoir que les gamins accèdent à leur manuel numérique et je vais y passer encore ma nuit. Je suis ravi.
C'est bon, ça.
Ouais, c'est nickel.
Bon. Bon, en tout cas,
très vite.
Voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter, hein, tout le monde sur eTeachers.fr, sur les différentes plateformes de podcasts, hein, iTunes, toutes les bonnes applis de podcast. Vous pouvez vous abonner pour louper aucune émission par mail si vous souhaitez, sur les Facebook et compagnie. Vous pouvez pas nous louper en tout cas. Quoi d'autre?
Je crois que tu as à peu près tout dit. Voilà.
Voilà. Si on veut nous contacter, nous, Guillaume?
Eh ben, moi, c'est toujours @ sur Twitter, Willow, W-I-2-L-O, le-8, et Teach. Voilà, Willow _ Teach.
Seb?
Alors, rencontrez aussi sur Twitter, c'est
Bonne soirée.
Ciao.
Bye bye.